France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Les bijoux de pacotille, c'est ce qu'il reste à Céline Mia Baumgartner de ses parents, disparus tous les deux dans un accident de voiture quand elle avait 8 ans. De ce drame, elle a tiré un roman et une pièce de théâtre, mise en scène par Pauline Bureau, et toutes les deux seront mes invitées à partir de 13h. Mais dans les midis, vous le savez, la critique passe avant toute chose. Au programme aujourd'hui, deux romans de ce printemps, Toronto d'Elisabeth Benoît aux éditions POL, et La vie continuée de Nelly Arcand par Joanne Rigoulot aux éditions Les Avrils. Vous écoutez les Midis de Culture, bienvenue à toutes et à tous. Et pour débattre autour de cette table, Johan Farber, éditeur, essayiste, critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Pierre Benetti, co-directeur éditorial du journal En attendant Nado, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Toronto, c'est donc le titre du roman qui nous occupe maintenant. Et c'est cette ville qui revient dans les conversations entre Johnny Depp et Amber Heard, rendue publique lors du premier procès qui a opposé les deux ex-époux. Sur ce qui s'est exactement passé là-bas entre les deux stars qui s'accusent mutuellement de violence, on ne saura rien. Mais c'est alors le début d'une sorte de folie collective qui s'empare d'Internet et des réseaux sociaux. Les mouvements féministes défendent Amber Heard et Johnny Depp est soutenu par des masculinistes zélés. De cette matière explosive, la romancière québécoise Elisabeth Benoît fait un roman nourri des procès-verbaux, mais aussi des conversations en ligne, des textos dévoilés, etc. L'autrice assume par ailleurs parfaitement sa fascination pour le sordide de l'affaire. On commence avec un avis rapide, Pierre Benetti.
C'est un livre désarçonnant qui demande une sorte de gymnastique pour le lire et de trouver un peu un mode de lecture. C'est pas facile du tout. Et à la fin, j'ai pensé que c'était un livre très ironique, bourré de choses trappes qui sont peut-être celles de la narration. C'est pas sans poser des difficultés politiques et éthiques d'un point de vue féministe. Mais je garde un avis finalement moins dur que ce que j'avais au départ de ma lecture. Voilà.
Johan Farber.
Moi, j'ai eu une lecture plutôt bienveillante. J'avais un parti pris bienveillant parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman, Suzanne Travolta. Et puis, au fur et à mesure de la lecture de Toronto, j'ai été assez perplexe par les partis pris et à la fin, carrément consterné parce que je pense que c'est un roman qui s'est laissé piégé par le discours masculiniste. C'est un roman en fait masculiniste qui entre dans un dispositif de backlash et c'est aussi un roman qui pose des questions politiques comme l'évoquait Pierre, notamment une fascination tout à fait malaisante autour des ultra-riches qui n'est jamais questionnée ni remise en cause.
Alors on va continuer à discuter, je pense qu'il y a du pain sur la planche, mais d'abord on écoute un passage de Toronto qui est lu par Oriane Delacroix.
J'étais tombée par hasard sur cet article en une du journal en ligne Le Monde. Le titre semblait être celui d'un journal à sensation. Drogue, jalousie, avais-je lu, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur, alors que j'hésitais à cliquer sur le lien et que je maudissais mon satané penchant pour ces histoires de vedettes, dans le fond, toujours terriblement ennuyeuses. J'étais en réalité incapable de résister à ce genre d'histoire, du moins à certaines de ces histoires. Je ne m'intéressais pas, Dieu merci, à toutes ces histoires, m'étais-je dit en mâchouillant un énième bonbon mou à la menthe, et j'avais cliqué sur le lien en soupirant. L'eau bouillait dans la cuisine, j'avais mis un minuteur pour ne pas oublier la casserole sur le feu. Le Monde résumait en quelques dizaines de lignes les démêlés judiciaires de l'acteur Johnny Depp, qui poursuivait le tabloïd de Sun en diffamation. Pas un représentant du Sun n'était cependant venu témoigner au procès qui avait eu lieu au même moment à Londres où Johnny Depp et son ex-femme, l'actrice Amber Heard, lavaient leur linge sale en public. Drogue, alcool, médicaments, cure de désintoxication, île privée aux Bahamas, jalousie maladive, doigts coupés, médecin personnel, étron sur le lit conjugal, etc., etc. Il suffisait de lire l'article du Monde pour être saisi sur le champ par le côté presse à sensation de cette histoire.
Voilà, Toronto d'Elisabeth Benoît, Pierre Benetti. Vous disiez que c'était un roman difficile à lire, ça demandait une gymnastique. En quoi ? Parce que là, ce qu'on entend, on n'a pas l'impression
Alors premièrement, c'est un roman très long. Hein. Ouais. Faut quand même affronter un livre de 500 pages composé majoritairement de transcripts de procès-verbaux dont on ne sait pas, et ça c'est une première difficulté, dont on ne sait jamais s'ils ont été retouchés. C'est-à-dire que le pack de lecture général au départ du livre, il est un peu trouble, ce qui est le propre de la fiction. Et l'éditeur a pris soin de nous préciser que c'est un roman en couverture. Bon, première difficulté, c'est la longueur, et puis ce gros problème aussi de factualité, quoi, disons. Et puis il y a une autre difficulté, c'est que les procès-verbaux ou les auditions des témoins dans les deux procès de l'affaire vont être intercalés avec des parties qu'on vient d'entendre de la narratrice qui commente son enquête sur les réseaux, qui va en plus de ça ajouter d'autres témoignages. À mon sens, ce sont les parties les plus réussies. Moi, j'ai frôlé quand même l'overdose ou l'indigestion, pour pas faire de jeu de mots avec toutes les drogues dont on entend parler dans le livre. À mon sens, ça devrait être bien plus développé comme type de narration, parce qu'on entre vraiment dans le cerveau, et peut-être qu'on va en débattre avec Johan. On entre quand même dans l'esprit de quelqu'un qui suit cette affaire derrière un écran, et donc il y a une série d'écrans. C'est un livre qui propose une série d'écrans vis-à-vis d'une réalité qui n'est finalement que quasiment que fantasmatique, qui passe par tous ces écrans de commentaires sur les réseaux sociaux et de tous les commentaires à la fois des professionnels, des journalistes et du Kidam. Voilà. Bon, donc ça demande quand même une sorte de présence à la lectrice ou au lecteur. Qu'on n'a pas forcément l'énergie toujours de donner. Et une dernière difficulté à laquelle moi je me suis confronté, c'est que je me suis rendu compte quand même que j'avais finalement peu de repères factuels sur l'affaire en elle-même, et que j'avais des repères sur les discours et commentaires qui sont globalement composés de discours masculinistes, puisqu'à la fin, cette affaire a été perdue. Enfin, faut quand même le rappeler, ce procès a été quand même perdu par Amber Heard, et qui a gardé une image générale de quelqu'un qui se serait fait passer pour une victime. Et c'est vrai que c'est le point de vue qui est adopté tout au long du livre.
Mais vous y avez vu de l'ironie?
Alors, à mon sens, c'est un livre en fait profondément ironique qui utilise finalement la narration d'enquête, l'exposition des voix. Hein, on est habitué à ça. Enfin, ça peut faire penser au travail de Svetlana Alexievitch dans un tout autre genre, ou par exemple de Sophie Divry. Donc ça, c'est des techniques littéraires qu'on utilise beaucoup, et c'est un art du montage. Et le montage, à mon sens, nous fait entendre ce point de vue masculiniste pour le mettre à distance. Je pense pas qu'elle se l'approprie, Elisabeth Benoît.
Alors, Johan Farber, pas du tout la même lecture, si j'ai bien compris.
Bah non, mais j'étais dans exactement le même questionnement que Pierre, c'est-à-dire que j'étais d'ailleurs très heureux que la littérature s'empare d'un fait de tabloïd, et puis comme elle le dit tout de suite, les journaux, c'est pas seulement les journaux à sensation qui se sont emparés de ça, puisqu'elle l'ouvre l'extrait qu'on a entendu ensuite par Le Monde, donc en fait c'est assez sérieux, et elle s'est très justement dit que ça fournissait une matière littéraire assez intéressante, sauf que le problème que moi j'ai tout de suite vu, c'est effectivement un problème factuel, et puis en fait ce sont déjà des discours fabriqués, c'est-à-dire que ce qui n'est jamais interrogé, et là pour ma part je pense qu'il n'y a pas d'ironie, c'est que les discours tels qu'ils sont peut-être retranscrits sont des discours qui sont déjà fictionnalisés par les masculinistes, donc on ne connaît pas très bien les sources. À un moment, vers la page 150, elle fait son coming out pro-Depp, elle dit je suis pro-Johnny Depp, ça veut dire qu'elle est du côté de toute
la narratrice.
La narratrice, oui. C'est-à-dire qu'elle est du côté, effectivement, de tout ce qui est Elisabeth Benoît prend parti pour Johnny Depp, sauf qu'il faut savoir que le masculinisme, c'est quand même une narration, et le masculinisme, c'est déjà du storytelling. Et qu'est-ce que c'est le masculinisme? C'est une masculinité, en fait, du ressentiment. Et donc, c'est un sentiment de revanche. Et donc, pour asseoir ce sentiment de revanche, il y a le déploiement d'un storytelling. Et c'est toujours un storytelling en deux temps. Le premier temps de ce storytelling, c'est toujours, en fait, la construction d'une délégitimation de la parole féminine. Et là, cette délégitimation de la parole féminine, pour moi, elle annule, en fait, toute possibilité d'ironie, parce que, sur 500 pages, Amber Heard ne prend la parole que cinq fois.
C'est ça.
Et
ça,
Johnny Depp.
C'est l'énorme problème du livre.
Voilà. C'est l'énorme problème du livre. Et chaque fois qu'elle prend la parole, elle est délégitimée par la suite par les employés de Johnny Depp. Et à aucun moment, in ce rapport hiérarchique contractualisé à Johnny Depp n'est interrogé. La deuxième chose, c'est que au-delà de cette délégitimation, il y a une désinformation. C'est ça le storytelling en fait masculiniste, c'est à la fois délégitimation et désinformation. Et là, on est en plein dedans. Pour moi, j'ai été vraiment très mal à l'aise et assez consterné de voir qu'en fait, ici, en plus, ce procès a eu le procès du procès. Il y a quasiment deux ans, un excellent documentaire sur France 5, sur la fabrique du mensonge, sur la manière dont les masculinistes et dont les avocats de Johnny Depp se sont précisément servis de toute cette horde numérique pour attaquer Amber Heard et la décrédibiliser. Quand on regarde les sources, puisque c'est sourcé, c'est une enquête, hein, mais c'est une enquête vraiment à charge, une enquête vraiment qui a trouvé sa coupable avant même de commencer à disposer des indices, on remarque qu'il n'y a pas, en fait, ce documentaire. Or, comme on le comprend, le livre a été rendu en 2024, le documentaire existait déjà. Donc, en fait, sous une apparente neutralité, il y a quand même des choix qui sont faits et des choix qui sont vraiment à charge. Dans le roman dont on va parler tout à l'heure, La vie continuée de Nelly Arcan, il y a 4 pages qui sont consacrées au procès Amber Heard et Johnny Depp. Et dans ces 4 pages, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que dans ces 500 pages de Toronto. Et pourquoi ? Parce que, Joan Rigoulot trouve une formule qui, à mon sens, convient très bien à Elisabeth Benoist, c'est-à-dire qu'elle participe de ces femmes qui veulent conserver un ordre immobile. Et moi, ça me met vraiment mal à l'aise, parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman, et je trouve que là, il y a un problème politique de fond, que le procès du procès n'est pas examiné, et que ce masculinisme, en fait, est reconduit dans ce moment que les féministes appellent le backlash, et qu'on pourrait traduire ici, en fait, de contre-révolution. C'est pour moi, c'est très embêtant de le dire, c'est un roman contre-révolutionnaire, un roman qui s'est posé des questions à partir de Johnny Depp et a donné des réponses tout en essayant de maintenir une neutralité de bon aloi qui est en fait un choix politique délétère.
Pierre Benetti.
Mais c'est quand même une fausse neutralité, c'est-à-dire qu'on est dans... On est dans un artefact littéraire qui, au tout début, les 100 premières pages, pour tout dire, où on accumule quand même les témoignages, en effet, d'employés. Alors, par ailleurs, je fais une petite précision, c'est que sur 500 pages, il faut toujours se rapporter à la liste des personnages du début pour savoir qui parle. Donc, on est, en tant que lecteur, exposé à un déversement de discours, on ne sait jamais qui prend la parole. Au bout d'un moment, on les repère quand même. Mais bon, voilà, je préviens, mais c'est très difficile de s'y repérer. Donc, je disais qu'on est quand même dans un artefact de neutralité. C'est-à-dire que derrière l'apparence de neutralité documentaire, on nous montre, ce livre nous montre les discours masculinistes à l'œuvre et nous montre la réduction du témoignage d'Amber Heard, en gros, la parole d'une sadique manipulatrice qui est finalement la coupable de l'affaire. Donc ça, moi, je suis un peu étonné que vous...
Mais cette accumulation, justement, produit pas juste l'effet voulu qui serait d'un écœurement face à ces discours masculinistes.
Alors, en effet, moi, ça a produit de l'écœurement au début. À mon sens, quelque chose comme il y a une violence dans ce livre. Il y a vraiment il y a la production d'un discours violent. Ça, c'est clair. Au fur et à mesure de la lecture, étant donné qu'il y a quand même la place très importante de cette narratrice, hein, y a pas que les procès-verbaux, cette prise de parole, elle nous aide quand même à comprendre qu'on est devant quelqu'un qui est en train de monter des témoignages, qui est en train de faire un dossier.
Cette narratrice, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle apporte?
C'est une pro-Depp derrière son écran, comme il en existe beaucoup. Ce qui n'est pas Elisabeth Benoist. Enfin, je pense que, ou alors, elle est entrée dans, je pense qu'on est à un niveau de friction entre la narratrice, l'autrice, la fiction, la réalité, qui est quand même passionnant. Enfin, moi, je pense que niveau-là de confusion est très intéressant, littérairement, et puis pour comprendre la société dans laquelle on est. Moi, j'avais jamais lu, en fait, un livre qui se mettait à cette place-là et qui nous présente comme une archive quelque chose qui est finalement dans notre contemporain. Enfin, on dirait que le monde va tellement vite qu'on est déjà devant une histoire, une histoire ancienne. Donc, cette narratrice, elle est très peu située, si ce n'est une place derrière un écran, quelqu'un qui devient obsédé, non pas par l'affaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle précise qu'elle est obsédée par la manière dont Amber Heard manipule tout le monde. C'est ça qui l'obsède. Ce qui est un point de vue masculiniste. Mais c'est un point de vue de fiction. C'est-à-dire que là, on joue... La fiction joue avec le documentaire. C'est, oui, ça, c'est, on est en train de.
Johan Farber n'est pas d'accord là.
Non, je suis pas d'accord parce que, enfin, je suis pas d'accord. Je suis totalement d'accord avec Pierre Benetti sur toutes ces questions. Effectivement, tout le passage, tous les passages où elle interroge finalement la fabrique même de son livre sont les passages les plus réussis parce que là, on retrouve vraiment une série de questionnements, mais vers la page, vers avant la page 200, vers la page 150, quand elle fait ce que j'appelais tout à l'heure son coming out Prodep, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle choisit délibérément d'orienter sa vision des choses qui est masculiniste. Et la question du montage, pardon, mais pour reprendre une expression de Serge Danet, c'est un montrage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, on a quand même une romanticisation de la figure de Johnny Depp, qui est toujours une pauvre victime, et quand même, céder la parole...
Il manque un contrepoint de vue.
Il manque un contrepoint de vue. Je veux dire,
mais l'énormité de sa démonstration fait pas justement contrepoint?
Moi, personnellement, je ne trouve pas parce que systématiquement, on est vraiment dans le rabaissement d'Amber Heard. Elle est, il y a tout au début du livre, il y a tout un questionnement sur les bleus qu'elle a eu et sur le maquillage. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment un livre de violence qui rejoue une certaine violence masculiniste parce qu'on la démaquille constamment et elle est toujours traitée comme une suspecte, alors que Johnny Depp est toujours traité comme une victime. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'ensemble du livre, il manque pour moi cette question du procès, et je pense que le montage est en soi quand même un acte qui décide d'un sens à imprimer et à donner, et qui, moi, je dirais, ça m'a laissé perplexe. Ça m'étonne, en fait. Voilà,
un dernier mot, Pierre Biel.
On est vraiment au cœur de problématiques littéraires passionnantes, parce que quand le montage est fait par un personnage, par une narratrice... Que croire? Enfin, là, c'est l'ouverture de la fiction. C'est-à-dire que c'est toutes les possibilités d'interprétation qui sont ouvertes. Alors, à mon sens, ce livre ne trouve pas une forme qui permettrait, et peut-être que j'aurais aimé, moi, personnellement, que dans les parties au jeu, il y ait un contrepoint. C'est-à-dire, c'est pas possible d'invisibiliser à ce point-là, en fait, les victimes qui se présentent comme victimes, surtout avec deux procès qui ont été déjà des très grandes violences pour elles. Voilà, cette forme n'y parvient pas.
Toronto d'Elisabeth Benoît aux éditions POL, qui était sorti le 6 mars.